Messieurs, mesdames, auditeurs de la radio de la paix au Capi, bonsoir et bienvenue à suivre la tribune de la presse. Je suis Freddy Bikumbi Ignace. Au cœur des échanges de ces débats, la rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Doha au Qatar, mardi dernier, autour de la question de paix dans le Nord et Sud Kivu. On va épingler aussi la question des négociations directes ratées entre le M23 et le gouvernement de la RDC sur les cessez-le-feu et les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Malgré la présence de la délégation gouvernementale à Luanda, en Angola, et l'absence de représentants du M23, la médiation angolaise continue avec des pourparlers pour faire revenir le M23 à la table de négociation. Quid du procès de 5 officiers supérieurs poursuivis par l'auditorat militaire ici à Kinshasa, tous des généraux des FARDC accusés d'avoir abandonné les troupes, fuite devant l'ennemi, quitté la ville de Goma le 26 janvier dernier en laissant de matériel de guerre au profit du M23. Autour de la table pour ces débats, Madame Julie Nondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la radio Moto de Beni au Nord Kivu. Monsieur Patient Debaba, bonsoir.
Bonsoir, confrère. Bonsoir à tous les
auditeurs. Veuillez bouger un peu pour votre ligne. Vous êtes journaliste, aussi secrétaire adjoint de l'UNPC au Sud Kivu, basé à Uvira. Dans ses studios, monsieur Ale Botoko, photojournaliste et PDG de plusieurs médias en ligne, journaliste indépendant, basé ici à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir à Patia et à Julie, et aussi aux auditeurs qui vont nous suivre ce soir et dans les réseaux sociaux.
Fidèles auditeurs, bienvenue à la tribune de la presse sur Radio Okapi. On va à Uvira avec vous, Patient Debaba, pour savoir les informations qui ont attiré plus d'attention cette semaine dans cette contrée du Sud Kivu.
Oui, l'actualité reste dominée par les forces de défense et de sécurité. Ils sont en train de rechercher les petits bandits qui ont semé la terreur dans les semaines passées. Les armes et munitions qui se trouvent dans la maison. Je disais que l'actualité est dominée par l'arrivée de Bitakura. Je rappelle qu'il est coordinateur de l'Assemblée au Kivu et il prévoit de tenir un meeting aujourd'hui. L'autre actualité, c'est à Baraka, où le calme est observé après plusieurs tirs de répétition supplémentairement. Général autoproclamé, le fait est boué la moutée. Et on signale également des combats dans les hauts et moyens plateaux, notamment à Minembwe et à Mikenge, où les FARDC appuyés par le Rwanda affrontent contre les Tuganiens et les alliés.
Merci à cher Debaba Patient pour ces informations. Revenons à Kinshasa avec vous, Alain Botoko. Quels sont les faits qui ont marqué l'actualité dans la capitale congolaise?
Oui, la capitale congolaise est traversée par un phénomène qui dérange l'inquiétude de la population de Kinshasa. Et ce phénomène, c'est les embouteillages qui ne font plus dormir. Et c'est partout dans toutes les grandes routes. Et ce phénomène des embouteillages faisait aussi souffrir le Nigeria dans la ville de Lagos de la même manière. Et le gouverneur de la ville, le privé, les grandes sociétés et la société civile se sont réunis et ils ont trouvé des solutions. Et les solutions, c'était lesquelles? C'était il faut construire des routes de 6 bandes aller, 6 bandes retour, mais aussi il fallait créer cette ligne de train ou de chemin de fer. Et ça manque à Kinshasa. Il faut que le gouverneur réunisse tout le monde, toutes les parties, pour chercher des solutions durables, parce que Les conséquences sont énormes. Ce sont des millions d'argent qui sont évaporés par heure, mais aussi des millions par semaine en dollars. Et la perte du temps, c'est très capital parce que vous êtes un travailleur, vous devez faire 5 heures du temps dans la route, alors que le travail est de 8 heures. Et donc vous faites 3 heures au travail, fatigué, tu rentres, demain tu reviens, tu peux plus donner le meilleur de toi-même. Et là, il faut vraiment qu'on cherche des solutions et la ville a des solutions. Il faut seulement qu'on se réveille et qu'on brise, qu'on casse toutes les maisons qui ont été construites dans les rails de la ville de Kinshasa. Si on peut mettre 3 locomotives dans la ville de Kinshasa qui relie la ville de l'est à l'ouest et même une partie du nord. Et donc la solution serait trouvée.
Très bien. Quelle est l'actualité à Beni, Julie Nondo?
Oui, merci beaucoup. En fait, l'actualité à Beni reste, comme vous le savez, pour la région de Beni continue d'être le théâtre des violences perpétrées par divers groupes armés, notamment les forces démocratiques et alliées à l'IADF. Et il y a les civils qui sont principalement des victimes des attaques qui se traduisent par massacres, des enlèvements, des pillages et des déplacements massifs de la population. Et actuellement, même si le M23, bien qu'ils ne sont pas actifs ici, toutefois, son influence et ses actions ont un impact sur l'ensemble de la province, y compris donc la ville de Beni, parce que nous dépendons beaucoup plus des Goma, bien que les gouvernorats soient installés à Beni, donc on ressent l'impact des actions de M23 ici à Beni. Voilà un peu ce qui marque l'état ici, la région de Beni.
Merci à vous tous pour ces commentaires autour de l'actualité. Tribune de la presse fait mention de cette rencontre hautement politique qui s'est faite en catimini entre Paul Kagame et Tshisekedi mardi dernier à Doha au Qatar. Rien n'a filtré de ces échanges, seul le ministère des Affaires étrangères qatari qui a indiqué que ces deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, sans pour autant citer le M23. Je vous demande de suivre ces récits des faits de Papi Martial Moukeba, rendu par Jacques-Yves Molima.
Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, en tant que médiateur, a salué les progrès du processus de Luanda, Nairobi et EAC SADC, réaffirmant l'engagement des parties à un cessez-le-feu immédiat. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases d'une paix durable, évoquant une fusion ou un alignement des processus de Luanda et Nairobi pour optimiser les démarches de paix. En tant qu'hôte, le Qatar a souligné l'importance de poursuivre les discussions entamées à Doha pour consolider les efforts de paix. Dans un communiqué publié ce mardi, la présidence de la RDC a mis l'accent sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que sur la nécessité de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le président congolais a réaffirmé son engagement envers le processus de Luanda et Nairobi, appelant à la fin des violences du M23 AFC au nord et au sud Kivu. De son côté, dans un communiqué, la présidence du Rwanda a exprimé son soutien aux efforts des processus et à ses SADC, tout en insistant sur la nécessité de traiter la question des FDLR. La RDC et le Rwanda ont exprimé toutefois leur volonté commune de trouver une solution définitive et pacifique au conflit.
Merci à Jacques-Yves Molima. Voilà une rencontre surprise, Kagame Tshisekedi, qui divise même la classe politique en RDC. Mais que dire de leur démarche patient des babas?
Merci beaucoup, estimé confrère. Je dois dire que d'abord, c'est une initiative à saluer du moment où cette rencontre de Doha a fait l'émir du Qatar a le mérite, ce que d'autres initiatives n'ont pas pu faire après la chute de Goma et de Bukavu. Après cette rencontre, il y a lieu de noter qu'il y a une mauvaise foi inouïe dans l'exécution de la coopération de Doha. Nous notons une mauvaise foi et l'hypocrisie de deux côtés, dans la mesure où les partis se sont engagés à être inconditionnés, mais un jour après, nous avons observé des attaques menées par les M23. À part cela, il y a un élément important qui reste à signaler. C'est que nous savons que Doha a des intérêts financiers et que, par exemple, au Rwanda, il y a un investissement de 1,3 milliard de dollars. Il y a eu la construction des raffineries et d'autres projets que le Qatar a pu financer. Et certains projets, pour leur réussite, il faudrait que les Rwandais aient un certain nombre de contrôle sur les ressources minérales du Congo. Et qu'aujourd'hui, il y a eu plus de sanctions sur les Rwandais. La dernière date, celle de l'Union européenne et le Qatar, c'est de voir que ces intérêts risquent sont menacés. Quoi. D'où la nécessité d'inviter les acteurs.
Donc pour vous, vous estimez que ce n'est pas vraiment pour la paix que Kagame et Tshisekedi se sont retrouvés, mais c'est pour le business, leurs intérêts financiers, à vous entendre.
Même si ils ne l'ont pas dit explicitement, la rencontre de Doha était une discussion d'abord économique et financière au regard des intérêts Qatar au Congo et au Rwanda. Ça, je l'assume. À part cela, cette rencontre qui a annoncé qu'il y aura de prochaines étapes.
Merci bien. De votre côté, Julie Nondo, comment avez-vous apprécié cette rencontre Paul et Félix au Qatar?
En fait, la rencontre entre Félix et Kagame à Doha, c'est une rencontre qui est d'abord couplée à l'échec des négociations menées à Luanda. Et cette rencontre met en évidence les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les efforts de paix dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation demeure instable, marquée par des tensions persistantes et des conflits locaux. Et donc, depuis cette rencontre, ça fait maintenant plus de 72 heures, rien n'a changé jusque-là. Et je pense que pour parvenir à une solution durable et véritable, et surtout efficace, il est impératif qu'il y ait un engagement politique solide. Et je pense que ce qu'ils ont fait à Doha ne vient pas de l'engagement solide de chacun, de chaque partie prenante, en fait, qui est impliquée. Et de plus, le soutien, je pense qu'il faut recourir aussi au soutien de la communauté internationale qui serait essentielle pour encourager et faciliter les initiatives de paix. Et pour stabiliser la région à l'est de la RDC. Ces soutiens pourraient peut-être passer par des moyens diplomatiques, financiers, mais également par des programmes de reconstruction et de développement afin de créer au moins un climat propice à des discussions constructives parce que, au fait, ce dont la population a déjà, c'est juste la paix. Ils peuvent faire des rencontres par-ci, par-là. La population n'a même pas besoin de savoir tout ça. Ils ont juste besoin de dire, ben voilà, la solution est déjà trouvée. Et donc, tout redevient normal. Chacun peut faire son travail calmement. Chacun peut aller au champ. Chacun peut faire tout ce qu'il veut maintenant le pays est bon. Et donc, je pense que quand il faut des rencontres, et puis il faut la publicité de ces rencontres-là, alors que ces rencontres ne produisent en camp, oui, ça n'aide pas beaucoup la population. Donc, voilà un peu mon avis quant à ça.
Julie Nondo, donc vous aussi, 72 heures après cette rencontre de Doha, vous doutez en tout cas, ce n'est pas pour un processus de paix?
Non, ce n'est pas pour un processus de paix parce que vraiment, il faut qu'il constate qu'il y a un engagement de toutes les parties prenantes, mais là, on ne sait pas vraiment qu'il y avait un engagement solide.
Effectivement, le communiqué n'a pas cité le M23, ni nulle part. On a fait appel au M23 dans ce qui s'est passé au Qatar.
Voilà, c'est pourquoi je dis que ça ne vient pas vraiment de l'engagement solide, parce que au début, Kagame disait qu'il ne soutenait pas le M23, et aujourd'hui, il va rappeler notre président pour en parler. Il va parler comment et attaque qui, alors qu'il n'est pas en train de soutenir le M23. Donc, il faut vraiment que toutes les parties prennent aux rencontres.
Et sur le compte X du ministère des Affaires étrangères qatari, il est indiqué que ces deux chefs d'État souhaitent se rencontrer encore à Doha pour poser des bases de paix durable. Votre lecture de fait, Alain Botoko?
Quand on est en pleine guerre, souvent les esprits se réchauffent. Et ce qu'il faut en réalité faire, c'est qu'il faut avoir ses deux pieds sur terre et avoir à son esprit en lui pour voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'expérience du passé ou l'histoire a montré que dans la guerre, il n'y a pas de cadeaux. Et la guerre, c'est aussi une autre manière de faire la politique. Il ne faut pas ignorer que Kagame a une histoire dans son pays et en Afrique centrale et surtout ici au Congo. Il a mené plusieurs guerres contre le Congo avec les séparatistes, hein, de Panthères, comme on veut les appeler aujourd'hui. Mais avant ça, il a mené aussi une guerre dans son propre pays pour arriver là où il est. Et donc c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui joue avec des mots, avec des stratégies. Et une des stratégies que Kagame a actuellement, c'est la diversion. Soit lui, il accepte que nous, on veut défendre le terre que les Belges nous ont piqué, et soit il se dit non, c'est les réfugiés congolais qui sont chez moi et qui veulent rentrer chez eux, ou qu'il commente que non, ce sont les Congolais qui menacent les Tutsis qui sont au Congo. Et
ce sont des alibis, parce que cette fois-ci, il y a une guerre à Goma, Bukavu, il n'y a pas de réfugiés au niveau du Rwanda.
Mais ces alibis-là...
Qui sont ces Congolais-là qui se disent réfugiés toujours?
Oui, cher ami, ces alibis sont connus déjà de partout le monde. C'est pour ça que le monde est en train de sanctionner Kagame et son équipe qui continue à torpiller les choses en RDC. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que nous sommes en pleine guerre. Et dans la guerre, il faut réfléchir deux fois plus que celui qui vous combat, celui qui est en face de vous. Il faut qu'on anticipe. Et le ministère des Affaires étrangères du Qatar l'a dit clairement qu'il faut pas fragmenter le... Ça, ce terme-là est très fort. Fragmenter le processus. Il faut que le processus soit coalisé et qu'il y ait des solutions durables. Il faut que le pression nationale, internationale, se mette encore en puissance pour contraindre Kagame à accepter la paix. Jusque-là, moi, je ne vois pas que Kagame a accepté la paix et il utilise ces mêmes stratégies qui sont la diversion, la pourriture, pour récupérer la situation à la fin. Il faut qu'on soit vraiment très, très intelligent pour analyser ça, parce qu'il l'a fait avec Abiarimana et son équipe. Ils allaient dans les négociations et c'est lui qui utilise les missiles pour chercher à détruire l'avion, c'est celui qui menace le Hutu qui sont là-bas. Et quand Mobutu envoie la pression du Congo pour sauver Abiarimana et l'équipe avant que le pire n'arrive à Abiarimana, et c'est lui qui fait la diversion, il rentre en Ouganda. Et donc, il utilise beaucoup d'acteurs au même moment pour faire la diversion et à chercher à récupérer la situation. Ce qu'il faut faire pour nous, le Congolais, c'est quoi? C'est que la première des choses, c'est qu'il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour qui fait quoi et qui doit faire quoi à tel moment. Et aujourd'hui, maintenant, ce sont les militaires qui doivent aller au front et ils doivent être équipés, ils doivent avoir tout ce qu'il faut pour contraindre par la force Kagame de ne pas avancer ou de le déboulonner de là où il est. Et ça serait vraiment la première chose que devait faire le Congolais. Ça, c'est notre responsabilité. Et une autre chose que la communauté du monde devait faire, c'est quoi? C'est accentuer la pression sur Kagame. Kagame n'écoute pas encore les sanctions qui sont là. Il faut qu'on coupe l'envoi d'armes au Rwanda et il faut plus qu'il y ait des armes du monde qui atterrissent à Kigali ou dans d'autres villes, ou à Kampala ou ailleurs, là où il peut récupérer les armes et les munitions, à ce moment-là, quand il aura des pressions, à ce moment-là, il va céder. Parce que la première responsabilité d'un État, c'est vraiment préparer à ce que, quand il y a attaque, quand il y a une guerre qui résiste et qui repousse. Voilà.
Alors, pour vous tous, qu'est-ce qui pourrait être, en tout cas, comme base de paix durable, si une fois encore, Paul Kagame et Tshisekedi se retrouvent à Doha au Qatar?
Oui,
Alain.
Oui, il faut que Kagame donne des gages, qu'il dise aux yeux du monde que moi, maintenant que je suis connu, que c'est moi qui manipule cette situation, qui fait pourrir cette situation de l'Est. Et alors, je viens pour qu'il y ait une solution une fois pour toutes et que cela soit signé, que cela soit au vu aussi de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas que ce soit en catimine, il ne faut pas que ce soit entre quelques individus ou que. Non, il faut que. Parce que les intérêts, je le toujours dis ici, les intérêts qui se jouent dans l'Est du pays sont multiples. Et il faut que tout le monde, il faut que les gens sachent ce qui se passe, afin qu'il y ait une solution durable. Et le Congo ne cherche qu'une solution durable.
Julie Nondo, vous êtes pessimiste. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore se dire une fois s'ils rentraient à Doha pour se retrouver, Kagame et Tshisekedi?
Oui, en fait, comme je disais, qu'il fallait un engagement solide de la part de toutes les parties prenantes du conflit. Et donc, bon... De ma part, je ne vois pas l'importance d'une deuxième rencontre et à s'appeler Tshisekedi et Kagame. Je ne vois vraiment pas l'importance parce que qu'est-ce qu'ils n'étaient pas dit avant-hier qu'ils vont se dire aujourd'hui, je ne vois pas. Toutefois, je pense qu'il faut plutôt impliquer l'autre partie qui n'a pas été impliquée, donc faire quelque chose de nouveau parce que si ces rencontres encore à deux, à trois avec l'émir, ça sera la même chose. Je pense qu'il faut associer d'autres personnes qui sont impliquées dans les conflits.
Par exemple,
pour
qui
pouvoir avancer.
Impliquer qui comme troisième partie?
L'homme dans quoi?
Ok.
L'homme dans quoi?
À vous, patient de Baba, qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore se dire? Comme vous venez d'attendre Julie, estime que qu'est-ce qui reste encore? Ils ont eu le temps d'échanger en catimini.
Je soutiens l'idée d'associer d'autres parties prenantes. D'où l'importance de prendre en compte l'initiative des évêques et des pasteurs congolais à travers le pacte social et le dialogue pour la région des Grands Lacs. Parce que cette approche vise à impliquer toutes les parties prenantes qui ont un rôle.
Voyons du côté du médiateur angolais João Lourenço. Les négociations directes entre le gouvernement congolais et les M23 n'ont pas eu lieu le mardi à Luanda. Les rebelles continuent avec leur offensive, installent même une administration parallèle. Le M23 parle des sanctions contre ses membres comme motif de ses refus de se rendre en Angola. Selon vous, est-ce un argument valable pour ne pas aller à ces négociations, Julie Nondo?
Je ne pense pas que ce soit un argument valable. Je pense juste que les M23 n'ont pas la volonté de négocier, ou soit ils sont en train de faire quelque chose, ils attendent pour qu'ils arrivent à la fin. Mais dire que non, parce que les leurs sont sanctionnés, ils ne vont pas venir parce que au fait, ils pourraient partir à Luanda, pas à RDC. Et donc, on ne pourrait pas les arrêter là-bas. Donc, je vois vraiment pas la, je vois pas vraiment la pertinence de ces motifs-là pour ne pas participer au dialogue. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne volonté, je pense.
Patient de Baba, vous êtes là?
Je suis là, confrère.
Alors, je vais vous redonner la parole pour acheminer votre idée et aussi nous retrouver là où nous sommes par rapport aux négociations directes de Luanda. Allez-y.
Je vous rappelle que l'Ouganda a joué un rôle dans la prise de Bunagana par les... Aujourd'hui, l'Ouganda est dans... et sa présence est militaire. Alors, tout ça, ce sont des choses qui doivent être discutées, mais aussi parce que, au-delà du fait que les Rwandais signent des accords avec l'Union européenne, la plupart des quantités de nos minéraux vont au Qatar via. Je veux dire, aujourd'hui, le M23 se rend compte que sa position est en train de s'améliorer et qu'il a en face de lui un adversaire docile, un adversaire qui ne gêne pas, un adversaire qui fuit, un adversaire mal organisé, un adversaire infiltré, un adversaire corruptible, un adversaire qui n'a pas de coordination des opérations militaires, un adversaire qui ne prend pas les initiatives d'attaquer, un adversaire qui ne prend pas au sérieux les menaces
dont il est porteur. Alors, dans un pareil contexte, le 23, c'est dit que non, ce n'est pas encore le moment de négocier, parce qu'il faut que j'avance. J'occupe un grand territoire, avec la chance d'arriver à Kinshasa. Ben, s'il me dit de négocier, il faut me dire de cesser les faits, et puis bon, ils peuvent récupérer. Autant mieux que je monte en territoire, ou comme je monterai en termes de cahier de charge. Voilà, c'est le biceps que les M23 est tenté de monter territoire par territoire. Vous pensez que s'il serait à Bunia aujourd'hui, est-ce que l'M23 refuserait de raconter les officiers à Luanda? Non. Donc, nous avons comme l'impression que le front diplomatique a beaucoup donné espoir et que le fait d'avoir perdu Goma et Bukavu fait baisser l'ardeur et la bravoure que les FARDC et les Kinshasa pourraient renforcer du point de vue militaire. Alors, je pense que la RDC ne doit pas se laisser tirer. La victoire n'est pas plus grand pourcentage de la victoire politique et nos diplomates. Parce que cette diplomatie, un jour, elle pourra être dynamique en fonction des réalités, des forces qui peuvent être observées d'ici quelques jours.
Donc, à ce stade, l'M23 ne peut pas négocier. Il veut avancer sur le terrain.
Bien évidemment, bien évidemment. Et si il peut négocier, ça sera pour les M23 une occasion de distraire dans l'opinion nationale et internationale afin qu'elle se réorganise le mieux possible. L'idéal pour les M23 est d'occuper le max possible. Et ça, le gouvernement congolais sait. Il le sait très bien. Parce qu'aujourd'hui, le cahier de charge que les M23 il y a 2 ans ou 3 ans n'est plus le même. Et tout ça parce que il a avancé militairement, il a pris des territoires, il s'est renforcé. Au sud Kivu, au nord Kivu, il vient de nommer des gouverneurs, des bourgmestres. Donc, c'est traîner la balkanisation. Et voilà les germes déjà. Voilà les germes. Et entre-temps, ils sont en train de récupérer progressivement des acteurs, des positionnements qui sont trop mal et qui sont en train de se renforcer pour congoliser la politique. Donc, à un certain moment, si rien n'est fait pour contrer militairement l'M23, en tout cas, nous aurons en face de nous une rébellion de plus en plus congolisée, même si c'est une rébellion créée pour défendre ou tenir, appuyer l'initiative du Rwanda.
Alors, passons au dernier thème pour cette tribune de la presse. Bien que Kagame et Tshisekedi se sont rencontrés pour parler cesser le feu sur le terrain, le M23 et Awalika, le centre, la guerre, déplacement des Congolais aussi, l'armée congolaise FARDC n'arrive pas à stopper le militaire rwandais qui combat aux côtés du M23. Conséquence, 5 hauts officiers des FARDC ayant fui devant l'avancée des militaires rwandais à Goma, sont drainés devant la justice militaire ici à Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir abandonné les troupes et matériel au profit du M23. Ça c'est par rapport à Madame la greffière qui a présenté ces accusations. Comment analysez-vous l'action de la justice militaire à l'égard de ces officiers supérieurs? Je commence avec vous, Julie Nondo.
Ce procès était une importance capitale, en fait, parce que ça rappelait qu'il y avait encore l'autorité de l'État. Mais moi, je dis qu'il fallait aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que des officiers qui ont abandonné leur poste. Il y a aussi les agents de l'État qui ont aussi fui et abandonné le bureau avec tous les effets, tous les rapports sur la province. Ont abandonné ça aussi dans leur bureau.
Et Debaba, par rapport à cette action judiciaire, qu'en pensez-vous?
La question qu'il faudrait se poser, cette justice, où était-elle? Quand on dénonçait les mafias dans la commune, quand on dénonçait que si le détournement des soldes militaires était fait avec des rapports à l'appui, où était cette justice? Quand des contrats avec des mercenaires étaient répétés d'être des contrats douteux ou farfelus, ou c'était d'une époque. Cette justice, où est-ce qu'elle était? Quand on a dénoncé que l'achat de matériel militaire, pour cet achat, il y avait des détournements. Des matériels défectués. Quand on dénonçait la surfacturation d'achat matériel militaire, où était cette justice? Je crois qu'un jour on aura. Je reviens maintenant à ta question. Je dénonce d'abord le fait que ces procès concernant les hauts gradés de l'appareil et de ce quoi des personnes qui avaient la charge de mener l'action opérationnelle sur le front, se tenir publiquement relève à un certain niveau populisme pur et simple.
Hier jeudi, l'audience a été faite à huis clos.
Non, effectivement, parce qu'ils ont compris. Ils avaient compris les paquets d'intérêt qui gravitent autour de ces procès. Parce que ces procès est suivi par les intelligences étrangères des autres pays. Et c'est l'opprobre à un certain niveau que nous vendons, que nous, de notre pays, comme ça. Il fallait voir ce qu'il peut vous respecter de défense, qui peut être révélé. Et nous voulons que ça passe à la télévision. Bon, comment peut-il un général? Un général, qui a conduit ce pays, qui a fait des munitions, publiquement, sur une chaîne nationale, qui est sur Canal Plus, suivi à travers le monde. Quelle stratégie de communication? Je crois que ils ont mieux fait de le faire à huis clos. Alors, je voulais revenir pour dire que
rapidement, parce que c'est là aussi votre conclusion.
Cette procès est révélateur. Il est révélateur des causes, des maux qui gangrènent et qui affectent considérablement toute la chaîne de gouvernance, de la défense et de la sécurité de notre pays. Ces procès, pour qu'ils se tiennent bien et pour que ce procès soit un outil de réparation ou soit de relèvement, un outil de relèvement de notre capacité de défense, je pense qu'il faut ajouter d'autres prévenus.
Comme qui?
Qui ont intervenu. Ces prévenus doivent, en tout cas, on doit les chercher. Que ce soit la présidence, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Défense, au niveau des acteurs politiques, tous ceux-là qui avaient un pouvoir dans les commandements militaires. S'il vous plaît, un autre aspect, s'il vous plaît, pour terminer. Il s'est posé un souci dans les commandements, dans une zone qui est été une province état de test, une gestion confiée à des militaires, aux forces de défense de sécurité, aux militaires. Nous pensons qu'il serait le mieux positionné pour contrecarrer les menaces sécuritaires. Malheureusement, à un certain niveau, on a senti de la négligence. Mais aussi, il y a eu un souci de coordination. Il y avait des militaires à Goma qui n'obéissaient pas au commandement au niveau de la région, au niveau de la zone. Et qui pouvait vous dire facilement que nous nous déconcentrons. Et cela a causé de la cacophonie. Vous imaginez une ville comme Goma, avec un effectif militaire qui avait, avec un arsenal militaire évalué à des milliards de dollars, avec les forces étrangères qui étaient déjà. Nous n'avons pas si capitalisé les efforts de tous les unités FADC. On ne savait pas qu'est-ce que va faire la force colombienne. À un certain moment, la garde de et les Ouazalendo, conclure.
Un mot déjà.
Un mot. Prenons le courage d'être sérieux lorsqu'il s'agit de gérer la République. Et cela, c'est à tous les niveaux.
Merci, ça sera pour vous la conclusion. Je reviens à vous, Julie Nondo. Vous n'avez pas terminé votre idée par rapport à cette action de justice à l'égard des officiers supérieurs. Et ça sera aussi votre conclusion, Julie.
Merci beaucoup, Sandy. En fait, je disais, l'issue de ces procès pourrait avoir des répercussions sur le moral du peuple. En effet, si des éléments de responsabilité sont établis et que des mesures sont prises à conséquence, cela pourrait rapporter la cohésion entre des forces militaires, mais aussi la confiance entre la population et les forces armées de la RDC. À l'inverse, je connais mon pays, des forces sont mises à lumière pour que les actions correctives ne soient entreprises, après avancer un sentiment de démoralisation et de division parmi les militaires. Je finis en me posant la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces militaires qui sont restés au front, parce qu'il y en a qui sont restés au front jusqu'à perdre leur vie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ses pères, de ses grands frères, de ses maris, des gens qui sont restés là-bas jusqu'à perdre leur vie? Voilà, je finis à me poser cette question-là.
Terminons avec vous, hein. Alain Botoko, comment est-ce que vous voyez l'action de la justice militaire?
Je répète encore une fois, il faut qu'on garde nos esprits solides. Il y a toujours un début d'une guerre, il y a toujours la fin de cette guerre-là. Et celle-ci n'est pas la première guerre, deuxième guerre mondiale, ont eu lieu et c'est passé. Ça va passer un jour. Et quand nous prenons les décisions, les stratégies, pour contrer l'ennemi, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ce sont des généraux, et moi je crois qu'il y a une manière de les juger. L'Ukraine, Israël et ailleurs, ils savent comment ils le font. Nous ne devons pas sortir de cette manière de faire les choses. Ne soyons pas populistes. Et c'est là qu'il faut, dans les réseaux sociaux, on a indexé le ministre de la Justice, qu'il est présent dans les procès. Il ne faut pas qu'il soit là. Il ne faut pas que lui soit. Et les procès, en réalité, devaient être en huis clos. Et il faut aller en profondeur. Il faut qu'on sache l'argent que le gouvernement, les contribuables congolais donnent, ça passe comment, ça se gère comment? Est-ce que ça arrive dans le président l'a dénoncé lui-même? Et qui sont les auteurs de ces gâchis? Il faut qu'on les punisse. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut qu'on quitte. Il faut que nos voyants militaires, que nous sommes en train d'appuyer tous les jours, nous contribuons pour eux. Nous faisons des émissions, nous faisons tout pour qu'ils avancent. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des hommes d'affaires dans les rats de nos militaires. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui aiment la vie. Et il faut qu'il y ait de jeunes gens.
Jetez, s'il vous plaît.
1 million de jeunes gens, de 16 ou de 18 à 22 ans, qui prennent la responsabilité, qui soient enseignés de comment aimer le pays et comment agir pour sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Ces jeunes gens sont utiles et il faut les mettre dans le travail. Et ils sont nombreux dans le pays. Nous avons des millions et des millions. Il faut les mettre au travail.
La tribune de la presse de ces jours touche à sa fin. Je vous dis merci, Madame Julie Nondo, journaliste à la radio Moto de Beni. Honneur qui vous, à vous également, messieurs. Patient Debaba, journaliste et secrétaire adjoint de l'Union nationale de la presse congolaise au Sud Kivu, basé à Uvira, sans oublier M. Ale Botoko, photojournaliste et PDG de plusieurs médias en ligne, journaliste indépendant, basé ici à Kinshasa. Si vous avez aimé la production radiophonique de ces jours, c'est grâce à l'apport de Guy Maté, Kelly Kouté, sous la supervision de Martin Sebudjangwe. Pierre Diassinois, je l'appelle Mzé, était à la partie technique. Au micro, Freddy Bikumbi, Ignace.